démonte la guillotine et qu'on la remonte dans les fourrés du Champ de Mars, la députée. Donc elle a quelques heures pour vous montrer le côté. Il paraît qu'il pleuvait sur là en plus. Voilà, ça c'est le Champ de Mars tel qu'il était, un des plus beaux jours français. On n'en parle pas non plus. Je fais un petit retour en arrière. Ça c'est le 14 juillet 1790. C'était le Champ de Mars maintenant. Hein, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération. Vous savez qu'après le 14 juillet, en France, il s'est instauré un espèce de désordre généralisé. On appelle ça l'époque de la grande peur, c'est-à-dire qu'il y a des bandes qui arrivent, qui attaquent partout. Tout ce qui est noble est attaqué, tout ce qui est château est attaqué, etc. C'est la grande peur. Donc. Tout ce qui est un peu riche est attaqué. Donc chaque ville se dote d'une garde, d'une milice qu'on appelle la garde, en fait. Et donc la garde nationale, et là le 14 1790, au Champ de Mars, c'est la fête de la Fédération, parce que toutes les fédérations des gardes nationales de France sont conviées à venir, il y a 12 ou 300 000 personnes qui viennent, avec le roi qui est là, quelque part dans les tribunes, là, ça c'est les invalides. Hein. Le roi il participe à ça, donc comme je vous disais, on est bien vers la monarchie constitutionnelle, puisque le roi lui-même participe à la révolution, à l'unité du pays. Voilà, ça c'est le retour en arrière, et ça maintenant, si ça marche... Le jeu droit. Voilà. Après, il faut le monter. Bon. Ah, oh là, c'est gros. Ah, voilà. Hop, non. Ah. Au secours, là. Celui-là, je voulais passer. Celui-là, je voulais passer aussi. Voilà, voilà le Champ de Mars. Et normalement, voilà le Champ de Mars. Ah non, après. Donc là, c'est plus tout la fête, hein, c'est le premier massacre de la Révolution. C'est pour ça qu'il dit. Quelqu'un peut intervenir là, s'il vous plaît. Je sais pas. Bouge plus. Ah non, ça tourne sur un diaporama.
Il faut arrêter l'ordi.
C'est très délicat. Ah, on reste là ? Non. Tu sais pas le faire ? Je peux pas. Bon, je continue comme ça. Continue comme ça. Non, mais là,
vous avez pas votre
On va reprendre. Fin de la pause, excusez-moi. Forcément, c'est du bien. Alors, j'ai un bruit, donc elles sont plus. Alors, à la fusillade, donc, il n'est qu'à quelque part bruit de là. Alors, Brune, je ne sais pas si vous le savez. Brune, si vous le savez, donc, il y a quelques clubs des Cordeliers avec Danton et Danton
et des Moulins.
Et des Moulins, et d'autres. Fabre des Biancines. Et un autre qui est assez connu, Frémont aussi. Et Brune est un statistique que moi je l'ignorais, c'est qu'il est très grand. Il mesure plus d'un mètre 90. Et donc, il a un surnom pendant toute la Révolution, c'est Patagon. Pourquoi Patagon? Parce que quand les Espagnols ont trouvé la Patagonie, il y avait une ethnie indienne qui s'appelait donc le Patagon, et qui était grand. Deux. Il était grand, donc le Patagon était des grands Indiens. Donc, un des surnoms qu'on donnait à l'époque, du 18e siècle, les gens qui étaient grands, c'était Patagon. Et Patagon sont donc un très grand ami de. Des Desmoulins surtout, parce que Brune, je n'ai pas le temps de parler tout ça en détail, mais il n'a pas eu de descendance, il s'est marié jeune avec Marie-Angélique Pierre, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc quand les deux Desmoulins ont été guillotinés, parce que c'était un épisode aussi le plus cruel de la Révolution, c'est que Camille Desmoulins a été exécuté à 32 ans, et sa femme à 28 ans, je crois que Camille Desmoulins était exécuté la semaine qui suivait, et ils avaient un enfant qui s'appelait Horace Desmoulins. À l'époque, quand vous étiez guillotiné, il y avait confiscation de vos biens aussi. Il y avait toutes ces culs, tout ça, les femmes mutuelles et tout ça. Et donc, votre famille était laissée sans revenu. Voilà. Et c'est donc Brune a contribué avec la grand-mère de Horace, donc la grand-mère de Camille, je ne sais pas laquelle, la mère de Camille, a élevé le fils de Desmoulins en contribuant financièrement à sa. Son entretien. Voilà, ça c'est Patagon. Napoléon, dans ses mémoires de Sainte-Hélène, il parle de Patagon. Hein. Il parle de Brune, bien sûr, mais il parle surtout de Patagon. C'est vraiment son... Alors, comme il était grand, moi je me suis dit, il était le service d'or, en fait. Il était au pied, ça l'histoire l'a prouvé, il était au pied de la signature de l'œuvre, et il devait faire le service d'or. Ça a été tellement chahuté, cette journée-là, qu'il s'est retrouvé en prison, Brune. Les législateurs l'ont mis en prison. Et c'est comme ça qu'il rend dans l'histoire de France, parce qu'il fait quand même 21 jours de prison. Et il est élargi de la prison, parce qu'il peut prouver que dès le soir du. Il est fin quand même, dès le soir du 17 juillet, il a rejoint son unité de garde nationale, pas de garde nationale, des volontaires de Seine-et-Oise. C'est-à-dire que déjà, en 91, il avait choisi la garde militaire, en fait. Sa carrière militaire, parce qu'il était tout sauf militaire à l'origine, il va terminer la République de France, donc une carrière express. Vous savez qu'à l'époque, cette carrière express était due au fait d'armes qu'il faisait utiliser, bien sûr, mais que jusqu'à la Révolution, les postes d'officier étaient réservés aux nobles. Voilà. Et quand on avait fait la Révolution, ben les nobles étaient tous partis, enfin beaucoup étaient partis à l'étranger, que donc l'armée française avait besoin de jeunes hommes vaillants. Il y a un groupe militaire. Et donc, pour monter de grade en grade, on a été élus par les gens que l'on dirige, enfin, par ses compagnons d'armes. Voilà. Donc, Brune va faire toute sa carrière donc, dans l'armée de 1791 à sa mort en 1815. Il va partir de simple adjudant, homme de troupeau. Hein. Jusqu'au grade de maréchal. Alors, on n'a pas le temps là de citer tous ces faits d'armes. J'ai voulu montrer simplement son entrée dans la Révolution française. Alors, rapidement, maintenant, on ne sait pas s'il a participé à Valmy. Le 22 septembre 92, donc là, la République a été proclamée, vous savez, le 21 septembre 92, lui, il se retrouve là, il est colonel dans l'armée du Nord, déjà. Le 21 janvier 93, donc la date de l'exécution de Louis XVI, il est donc général de brigade, déjà. Il rentre dans l'histoire, une deuxième fois dans l'histoire de France, le 2 juin 93, en remportant la victoire de Passy-sur-Eure, donc guerre civile, contre ce qu'on appelait les fédéralistes, enfin, qui étaient la guerre de Vendée, en fait, mais qui se rapprochait de Paris, puisque Passy-sur-Eure, c'est pas très loin de Paris. C'est vrai que la guerre de Vendée, c'est un nom générique, mais ça considérait aussi la Normandie, etc. Donc il y avait des troupes qui arrivaient sur Paris. Donc Brune gagne cette bataille de Passy-sur-Eure. Après, au début de la Terreur, il est commandant militaire à Bordeaux, italien, il est envoyé par la Convention à Bordeaux pour établir l'ordre républicain de la Convention, puisque les Bordelais étaient ce qu'on appelle des fédéralistes, puisqu'on peut appeler des Girondins, les fédéralistes, ils étaient un peu comme les Lyonnais, les Marseillais, tout ça, ils ne voulaient pas une république une et indivisible, ils voulaient plutôt une république fédéraliste. Alors, après, le 5 janvier, après il rentre au comité militaire de la Convention, il est à Paris, il fait régner l'ordre à Paris. Le 5 janvier 1795, on en parle aussi beaucoup dans les années de France, parce qu'il participe avec Bonaparte, sous le nom de Barras, à la répression d'une manifestation royaliste à Paris. Et là, les meurtres de l'époque étant violentes, ils ont l'idée avec Napoléon, on les a appelés les jumeaux vendéniaires à cette époque-là, puisque cette canonnade a eu lieu en 1795, en Vendée-Mère. Bonaparte a la bonne idée de téléphoner à Murat pour lui dire de ramener, enfin pas téléphoner, mais de donner des ordres à Murat, pour qu'il ramène des canons donc, qui étaient près de Versailles, à Satory exactement, les amener pour protéger les Tuileries, où était le gouvernement de la France à l'époque, disposer des canons, les bourrer de mitraille, voilà, et que donc quand les manifestants, les royalistes, qu'on appelait les muscadins à l'époque, allaient arriver avec leur gourdin, mais tout simplement de les mitrailler, voilà. Et celui qui a commandé la mitraille, c'est Brune. Hein. Donc c'était un révolutionnaire aussi un peu dur, puisque cette mitraille, pour ceux qui voient pas, quand elle est à l'église Saint-Roch à Paris, reprend les traces de la mitraille sur sa façade. Hein. Parce que la mitraille, c'était de balancer des trucs. Et puis, ils ont fauché les premières entrées rapidement, et après tout le monde est rentré chez soi. À l'époque, c'était pas l'époque de maintenant, comme on peut voir tous les samedis. Hein. C'était rapide, hein. Il y avait une dispersion. Bon, on pense qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts. Voilà. Après, bon, ils participent avec Bonaparte. Alors, on les appelait les jumeaux vendéniens, ce sont les deux origines républicaines à avoir maintenu, on peut dire, la République en France. Parce que la Révolution, c'était plus qu'une petite manifestation. Hein. C'était des milliers de royalistes qui étaient mobilisés pour envahir les Tuileries et la Convention. Après, donc, ils participent avec son collègue jumeau aux batailles de Arcole et de Rivoli. Il réfute la Convention des égaux. Il est général de division en 97, général en chef en Suisse et en Italie en 98. Général en chef, c'est-à-dire que là, il est au niveau de Bonaparte. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Après, il est général en chef en Hollande. Il sauve la France. Alors, il sauve la France en 1799. Puisque là, il y a encore un missionnaire anglais qui est arrivé par le nord, par la Hollande, et qui s'apprête envers la France. Et là, Brune, seul, là, mène une bataille en Hollande, donc contre ce courage missionnaire, et gagne une bataille très importante. Napoléon dira dans ses souvenirs que si on avait été à Rome, Brune aurait eu droit aux honneurs d'un triomphe romain. Parce que si Brune n'avait pas été là avec son armée là, Paris était envahi dans les semaines qui suivaient. Sauve la France là, et c'est grâce à cette victoire-là, la bataille de Rügen, si je ne me trompe pas, que il va avoir son nom et la bataille, toujours la bataille et son nom sur Marc de Sedorf à Paris. Très important aussi. Bataille de Bergen, pardon. Après, c'est la guerre de Vendée, il est nommé général en chef des troupes en Vendée. Donc là, il ne fait pas, parce que Brune est un militaire, mais avec de l'intelligence, j'allais dire, il se dit, ça fait des années qu'on réprime les Vendéens, la guerre est toujours là, je vais discuter avec les Vendéens. Donc il discute avec les Vendéens, et il obtient la fin des guerres de Vendée, par une négociation bienveillante. C'est-à-dire qu'il obtient la reddition de Cadoudal. Et après, donc, pour le récompenser, ou pour je ne sais pas, il est nommé par donc, le consulat, c'est le consulat, il est nommé donc commandant en chef de l'armée d'Italie. Là, il obtient une victoire très, très importante au Massio. Voilà, et puis arrive l'époque où Bonaparte se transforme en Napoléon. Donc. Et ça ne plaît pas du tout à Brune, qui est un grand révolutionnaire républicain. Il a la République liée au corps. Donc il a eu. Ses relations à ce moment-là se sont très distendues avec Bonaparte, avec Napoléon, qui le nomme quand même en 1802, donc en 1804, maréchal de France, parce qu'il fait partie des grands généraux de la République française, donc il est nommé avec d'autres généraux maréchal de France. Mais Brune ne sera jamais un grand maréchal d'Empire parce que il y a une méfiance de Napoléon.
Il n'a pas voulu témoigner, il n'a pas voulu jurer fidélité.
Voilà. Ce qui se passe, enfin, ce qu'on raconte, c'est que Napoléon le nomme, on n'aura plus beaucoup de temps là, le nomme, il n'est pas dans la grande armée, tout ça, il ne fait pas les grandes batailles et tout ça. Iéna, Hélo, Wagram, ça n'y est pas. Oui. Mais il est nommé par Napoléon quand même, il s'occupe de toute la partie nord de l'Europe là, pour surveiller que le blocus contre l'Angleterre a bien lieu, puisque la grande politique de Napoléon pour affaiblir les Anglais, qui sont nos pires ennemis héréditaires, c'est de faire un blocus. Donc Brune est chargé du côte de Hollande jusqu'à Saint-Pétersbourg de vérifier que, y a pas de, que les corps font bien le blocus de, des liaisons avec l'Angleterre. Donc il est maréchal en général en chef en Poméranie. Et là, il obtient encore une grande victoire contre le roi de Suède. Et là, alors, histoire aucune façon, c'est vrai ou pas. Ce qui aurait été le fait déclencheur, enfin, Napoléon n'en pouvait plus de ce général républicain qui le contredisait sans arrêt. Et là, il aurait obtenu la reddition du roi de Suède en négociant directement lui-même avec le roi de Suède sans passer par Napoléon. Et il aurait signé lui-même la reddition du roi de Suède en disant au nom du peuple français, j'accepte la reddition au nom du peuple français. Alors qu'il fallait mettre, j'accepte la reddition au nom de Sa Majesté l'Empereur des Français. Et ça, c'est pour Napoléon, c'est le casus belli. Donc Napoléon lui retire immédiatement son commandement et n'a plus de commandement. Donc Brune, il rentre chez lui, hein, chez sa femme, à Saint-Just exactement. Et là, il attend un commandement qui ne vient pas. Sauf que quand la campagne de France dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire qu'à la fin de Napoléon, quand les étrangers envahissent la France, ils passent par la Champagne, par Saint-Just. Et là, Brune est quand même un personnage très connu, le repentir, et donc le général prussien qui arrive là respecte Brune en disant que c'est un maréchal de France, on ne va pas. Brune est là, et puis quand il y a la restauration, quand Louis XVIII revient, Brune, qui est un républicain avant tout, ne se résout pas à ça, et quand Napoléon fait les 100 jours, qu'on appelle les 100 jours, quand il revient, les 100 jours, mais qu'est-ce que fait Brune, républicain, il dit qu'il est avant tout un anti-monarchiste. Mais il se rallie immédiatement à Napoléon, avec lequel il n'est pas copain, mais enfin il se rallie pour sauver, pour remettre la République en France, enfin surtout par haine de la monarchie, et donc Napoléon le nomme responsable du sud de la France avec le poste à Marseille. Et après c'est Waterloo, donc là il part tout. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon dit « J'ai fait une grosse erreur ce jour-là de le nommer à Marseille ». J'aurais dû le nommer à Paris, parce que sous son seul nom, il aurait mis avec moi de 15 à 20 000 révolutionnaires parisiens. Voilà. Pour vous donner une image de l'aura qu'avait Brune à Paris à l'époque, en tant que grand général de la Révolution. Voilà, donc après, je suis terminé sur Brune comme ça, hein, puisque je suis parti. Après, donc, c'est Waterloo. Donc, il se retrouve à Marseille, il a toujours les drapeaux, il a fait hisser les drapeaux de la République française bleu, blanc, rouge. Comme il y a le retour du roi à nouveau de Louis XVIII, on lui demande de mettre le drapeau blanc, drapeau de la monarchie. Il ne veut pas. Bon, il reste une semaine comme ça. Finalement, on lui envoie un général royaliste pour prendre sa place. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais vous partez, puis vous allez à Paris. Donc, il part en diligence rejoindre Paris, Brune. Et là, en arrivant à Avignon, il tombe sur une bande de royalistes, écervelés.
Les forcenés
qui arrêtent sa diligence. Là, il y a une scène tragique où sa diligence s'est arrêtée. Brune se réfugie dans un hôtel, protégé quand même par le maire d'Avignon, etc. Bon, c'est pas suffisant. Une émeute qui se crée autour de lui parce que les royalistes l'accusent d'avoir participé au massacre de septembre 92, l'accusent d'avoir
tué Mademoiselle de Lamballe.
Voilà, d'avoir tué Mademoiselle de Lamballe. Voilà, d'avoir porté sa tête
sur le
bon, et alors finalement, il le tue. Il le tue. Il est tué par la populace. Traîné, bon, c'était une époque assez violente. Son corps est sorti de l'hôtel, traîné dans les rues d'Avignon, amené sur le tour d'Avignon. Son corps est jeté dans le Rhône. Son corps descend dans le Rhône. Il paraît qu'on l'a vu pendant plusieurs heures et plusieurs jours dans le Rhône. Finalement, son corps est échoué dans un truc. Un paysan le trouve, je crois, ou un employé d'un château neuf est par là. lui fait une tombe un peu provisoire, et c'est sa veuve, donc Marie-Louise Pierre, qui va faire des pieds et des mains, un pour retrouver le corps, qu'on finit par rendre notre vie, et deux, pour faire un procès, parce que les royalistes ont dit que ce n'était pas un assassinat, mais c'était un suicide. C'est un peu comme le service qui fait, il s'est suicidé une balle dans le dos, quoi. Il était tué, voilà. Et donc, ils réussissent à... Elle réussit en 1820, hein. Alors, j'ai lu la pièce, parce qu'elle avait été choisie comme avocat à Bordelais, donc à Bordeaux, on a encore aux archives municipales, là, en haut, au quatrième étage, on a encore la plaidoirie de Dupin, quoi, de l'avocat, qui a obtenu donc la réhabilitation. Voilà, j'ai terminé avec les trois majeurs. Non, Cabanis. Ah, là, la traite, je parlais de la traite, je voulais des... J'ai encore un petit quart d'heure, madame la présidente. Là. Bon. Alors, l'attrait, c'est un des gothiques, mais c'est à relier avec la constitution civile du clergé. Vous savez, la constitution civile du clergé, il y avait les prêtres qui juraient. Qui acceptaient de devenir dans des écoles constitutionnelles, soit appelés jureurs, et puis il y avait ceux qui ne voulaient pas jurer à la constitution du clergé, qui voulaient rester des prêtres au nom de Rome, en fait, pas au nom de la population française, de la loi française, et ce qu'on appelait des réfractaires. Voilà. La treille était un réfractaire. Voilà. Alors la treille, on dit que son vrai père, c'était un Espagnac, justement, qu'il avait été abandonné près d'une treille à l'Espagnac. C'est pour ça qu'il serait appelé Latreille, c'est un enfant naturel d'Espagne. Je pense que c'est à peu près vrai ça, son nom, je ne sais pas si c'est de la Latreille. Mais effectivement, à l'époque, c'est un peu comme ça qu'on faisait. Quand on ne pouvait pas connaître un enfant, on allait voir des paysans, on payait des paysannes pour élever l'enfant, et on donnait à cet enfant le nom de la ferme, de la. Lui s'appelle Latreille pour ça. Latreille, vous savez que donc. Je vais raconter son histoire parce qu'elle est trop belle, donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, prêtre réfractaire, à peu près, ça c'est 50% en France, 50% ont juré la constitution civile du clergé, 50% ont été des réfractaires. Et puis le taux a monté, les guerres de Vendée ont commencé, etc. Donc, quand il y a eu la terreur, on a dit bon, on a assez, des prêtres réfractaires en Guyane. Bon, alors, comment vous allez faire? Ben, vous les mettez en prison dans la préfecture du département, donc ils se sont retrouvés. Donc en prison à Tulle. Et puis alors après, quand vous arrivez suffisamment dans vos prisons, vous faites une charrette et vous l'emmenez à Bordeaux. Et à Bordeaux, là, on va l'emmener par des bateaux, parce que c'est le port de la Guyane, Bordeaux. On va l'emmener encore un bateau, on va les emmener en Guyane. Donc la treille est amenée de Tulle à Bordeaux, en passant par Brive, il y a des scènes que je vous raconte dans le cœur. Il y a des scènes où les brivistes viennent donner à manger, parce que son épouse n'est pas de l'État, si on peut dire. Il fallait en plus que vous donniez à manger, non? Les brigands se mettent à un granger, ils se retrouvent à Bordeaux. À Bordeaux, on mettait des prêtres réfractaires dans le petit séminaire qu'on avait réquisitionné. Latreille était déjà passionné depuis qu'il était né par l'entomologie, c'est-à-dire la science des insectes. C'est un chercheur en insectologie, enfin en entomologie, etc. À Bordeaux, il est dans son cachot, enfin c'est pas un cachot, c'est sa cellule, et là, il y a des insectes et tout ça. Des insectes dont un qu'il n'a jamais vu, jamais connu. Il tombe malade, ça c'est une histoire vraie, authentifié par plusieurs. Il tombe malade dans sa cellule, donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle un médecin pour voir la traite. Bon. Le médecin qu'on envoie, c'est bien sûr un médecin qui est proche de la municipalité, c'est le médecin municipal, si on peut dire qu'il vient voir les prisonniers. Il vient voir la traite, et la traite, qui doit avoir une grippe ou je ne sais pas quoi, lui dit: vous avez vu l'insecte là? Moi j'ai jamais vu ça, tout ça. Bref, ils se mettent à parler d'insectes et tout ça. Ce médecin qui était proche du maire, donc qui était le maire qui était envoyé par la convention, en fait, il lui dit: mais attends, on a un curé là, il ne faut surtout pas l'emmener en Guyane parce que c'est un grand savant, il m'a parlé d'un insecte qu'on n'a jamais vu nulle part en France, etc. Cet insecte, c'est la microbie à Colombie, donc c'est ce qu'on a vu. Il lui a sauvé, donc voilà, la microbie à Colombie. Donc cet insecte-là, il l'a vu pour la première fois dans son cachot. Alors l'histoire dit, et je crois que c'est vrai, hein, de ce que j'ai essayé de vérifier, effectivement, il y a plusieurs sources qui le disent, que donc entre le moment où le maire de Bordeaux, pas le maire, le représentant de la Convention de Bordeaux, dit « Ok, il faut élargir la traîne, il ne faut pas qu'il parte en Guyane avec son bateau, mais il faut qu'il reste en France. » Et le moment où la nouvelle est arrivée, la traîne était déjà montée sur le bateau qui partait. Le bateau partait donc en Guyane. Une barque part à vite le chercher. Alors, je ne sais pas ce que c'est légendaire, ça, je ne sais pas. Jusqu'au mec d'Ambès, pour qu'on s'y connaisse, il retrouve le bateau au mec d'Ambès, font descendre de la treille du bateau. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le bateau, ça c'est vrai, le bateau a fait naufrage au fond de Cordouan, au large de Bordeaux, hein, et que tout le monde est mort, là. Ça, c'est l'histoire de la première de la treille. Alors, la treille, une fois qu'il va être sauvé de son affaire, il va pouvoir faire sa carrière. Et donc sa carrière va consister à faire un grand savant. Il va faire un grand savant puisqu'il publie le premier précis sur les insectes en 1796. Il rentre au Muséum surnaturel de Paris en 98. Après, il remplace Lamarck, qu'on a connu. Il devient directeur du musée d'histoire naturelle de Paris. Il rentre en 1814 dans l'Académie des sciences. Voilà. Il décède en 1833 à Paris. Il est donc enterré au Père Lachaise. Père Lachaise. Et son surnom, vous connaissez tous en lui, c'est le prince de l'entomologie. C'est lui qui a créé cette discipline, en fait. Donc, encore un biologiste illustre. Mais là, du côté scientifique, sauvé par un nécrobie à col roux. Voilà. L'Espagne, je ne vais pas vous en parler, parce que bon, c'est pas très glorieux. Enfin, je vous parle des cannabis. Non, ah, je ne vous en parle pas. Allez. C'est une grosse famille bréviste aussi, un homme. Mais bon, lui. Pendant la Révolution, il était très révolutionnaire au début, puisqu'il voulait faire un discours, tu sais, quand on était jeune, l'abbé, comme ça, c'est un abbé. L'abbé, vous savez, on avait commencé sur l'Ancien Régime. Les abbés qui disaient pas trop la messe. Hein. Ils faisaient plus autre chose que de dire la messe. Hein. C'était pas un curé, c'était un abbé.
Comme
Talleyrand. Voilà, comme les autres, voilà, comme le canal du Bois aussi, qui avait aussi avant. Etc. Et alors lui, il y a une polémique historique parce qu'il a fait beaucoup d'affaires dans la Révolution, des affaires dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on dit qu'il revendait deux fois le même bien aux armées de la Révolution. Il a fait une compagnie maçon, et là il aurait fait quelques affaires douteuses avec pour la fourniture des armées, en fait. Donc, c'est pas un héros vraiment. Sauf qu'il y a des historiens qui disent qu'il y a des affaires certes douteuses. Il gardait peut-être 10 ou 20% pour lui, mais le reste, c'était pour la cause des Orléanistes. Les Orléanistes, c'était la cause de Philippe d'Orléans, qui avait voté, vous vous rappelez, la mort du roi, les fameux cousins, et qui étaient effectivement des gens qui étaient pour une monarchie constitutionnelle, mais pas avec les Bourbons, mais avec les Orléans. Et on dit que Danton s'était rallié à cette cause-là à la fin, parce que Danton était très intéressé par l'argent aussi, hein. Ça c'est prouvé. C'était un très grand tribun. Un très grand révolutionnaire, mais aussi intéressé par l'argent, puisqu'il était prouvé qu'il démarre la révolution pauvre, puis il est exécuté, donc en 1994, il est très riche.
On a dit ça de Brune aussi.
Oui, je ne veux pas en parler.
C'est dommage. Il sort de la cassette.
Oui, mais enfin bon, c'est pas... D'accord. On a dit ça à l'époque, on a dit ça de tous les généraux. Parce que l'armée, il faut dire, pendant la révolution française, l'État français, si ça existait, ne pouvait pas payer les armées françaises. Donc on leur disait, vous aussi sur la bête. Donc quand ils faisaient des campagnes d'Italie, de Hollande, de Belgique, de Suisse, tout ça, ils faisaient quelques radiales. Que les généraux gardent un peu pour eux, ça me paraît.
Monsieur Brune, il avait utilisé 12 carrosses en Suisse.
Oui, non, ça, je suis
ça. Vous n'avez pas lu
Si, je l'ai lu, mais je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce qu'il a lu. Les gens, c'est ça, les royalistes sont acharnés contre lui après Waterloo. On peut dire que c'était en plus un pourri, quoi. Non seulement c'est un
empire. Vous ne le prenez pas pour sérieux.
Non. Je suis l'attaque. Non, mais là, ça vient un peu en Suisse, oui, un peu. Mais en première année aussi. Mais tous. Et alors moi, ce que j'ai dit en Brune, c'est que son argent, d'abord, son maison de Saint-Just, tout le monde la connaît, elle est toujours là, c'est pas un palais extraordinaire. Et donc, comme je disais, il a donné beaucoup d'argent au fils des Moulins. Et il a aussi, comme il n'y a pas d'enfant lui-même, il s'est occupé de deux, sur les Corésiennes, qui étaient à La Feuillade, tu sais, c'est la famille de Tante Charlotte. Hein, oui. Parce qu'on a un peu...
À
La Fumade, c'est ça. On a une partie de votre famille qui était apparentée au Moulin. Donc, il s'est aussi occupé de ses deux nièces qui avaient perdu leurs parents prématurément. Donc, il n'avait plus d'adopté. Et vous savez que Brune était, j'ai oublié de le dire, était le parrain d'Alexandre Dumas. Ouais. Il était copain avec le père d'Alexandre Dumas, qui était général Dumas, et c'était le parrain d'Alexandre Dumas. Donc, c'était le parrain du fils des Moulins, le parrain d'Alexandre Dumas et l'oncle bienfaiteur de deux de ses nièces.
Donc, ici, en local, c'était la famille du Sablon. Du Sablon.
La famille du Sablon.
De La Fumade, pour ceux qui connaissent, dont l'héritière a été présente à l'inauguration de la statue par le maire de l'époque.
D'accord, c'est ça, Charlotte. Ça, c'est pas Charlotte.
Charlotte, oui.
Alors, voilà.
Cabanis.
Non, alors,
c'est Cabanis.
Alors, lui, bon, il va être donc. Il va être, vous savez que Robespierre fait un peu le tri dans les révolutionnaires. Il y a le premier procès de ce qu'on appelle les enragés, ce sont les hébertistes, qui sont trop extrémistes, ils sont guillotinés au mois de mars 1994. Et après, il organise le procès des indulgents, c'est donc. Nous, en fait, les orléanistes, il exécute toute la partie des. Il fait exécuter un procès qui dure que 3 jours, qui s'éditif. Tous les dantonistes, tous les Desmoulins, d'Espagne fait partie de la charte, etc. Il y a 18 personnes qui sont condamnées à mort. Vous savez qu'elle ne rigolait pas à l'époque, condamnées à mort le matin et exécutées le soir. Hein. Il n'y a pas d'appel, pas de cassation, pas de machin. Condamnées le matin et exécutées le soir. Et eux, comme ils se défendaient, ça c'est connu dans l'histoire de France, comme dans Danton se défendait beaucoup, comme ils hurlaient, ils ont fait vite voter dans la nuit un truc par là. La convention en disant qu'on pouvait mettre hors des débats les inculpés qui parlaient trop fort, qui ne savaient pas les trucs. Donc en plus, ils ont viré Danton et tous les accusés de la salle de procès. Ils étaient condamnés à mort, sans savoir qu'ils étaient condamnés à mort. Voilà, ils l'ont appris après. Ils sont des temps. Donc Vespagnac fait partie de cette fournée-là. Et donc, malheureusement pour lui, c'est le seul à part de ses. Il est aussi impliqué dans le. Ça, c'est le procès de Danton. Voilà, Cabanis. Alors, comment on fait ça pour Danton ? C'est le dernier, rassurez-vous. C'est le dernier. Cabanis. J'arrive pas à voir le nom plus. Pourquoi ça marche plus ? Ah, ça tournait. Cabanis, ça tourne. Il a cette envers le cours. Alors, Brive, il est né en 1757 à Brive, il est monté à Paris en 71. C'était le plus rebellion de sa carrière. Il a 14 ans, il était bien les doctrinaires. Je ne sais pas du tout le collégien. Et alors, surtout, il est très connu parce qu'il est rentré dans ce. Il a été, c'était un grand intellectuel. Il fait très bien le grec. Il a été, d'abord, son premier truc, c'est qu'il a été jeune au service de l'archevêque de Varsovie. Et il a eu la tête de traduire en français l'Iliade. Pour ceux qui connaissent à la fois l'Iliade, l'importance de l'Iliade et le grec, c'est compliqué. Hein. Donc, je ne suis pas à ce stade-là. C'est très dur, c'est écrit en vieux grec avant le grec. Ça, c'est un détail. Mais donc, il est recueilli après par Madame Helvétius. Madame Helvétius, c'est la veuve du philosophe Helvétius. Le philosophe Helvétius, je n'ai pas le droit d'en parler trop, la révolution, c'est que des Lumières, il y a deux grands courants de la philosophie. Il y a la philosophie déiste, qui est représentée par Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Enfin, ce sont des philosophes déistes. Et puis, il y a ce qu'on appelait les Lumières radicales, qui sont des matérialistes, des grands athées, des athées. Cabanis en fait partie. Ce sont des gens qui ne reconnaissent aucune existence à l'âme, aucune divinité. Cette grosse philosophie-là, du 18e siècle, elle est portée par d'Holbach, Condillac et Helvétius. Et c'est l'époque où on crée des salons littéraires. Donc Helvétius meurt prématurément, Et donc, le grand salon littéraire de Paris à l'époque, c'était le salon de Madame Helvétius. Brune est accueillie très jeune dans ce salon littéraire par Condorcet, Cavalis, par Condorcet et d'autres. Donc, ce qu'il faut en savoir de Brune jeune, c'est que c'est Cavalis, je me fatigue qui arrive, Cavalis, non, Cavalis. Apprend la médecine, comme il rentre en France après avoir été à Varsovie, il ne sait pas quoi faire, on dit dans le salon, fais donc une médecine, parce que bon, c'est intéressant, tout ça, il fait médecin. Il devient le médecin de Mirabeau, et donc le constituant, enfin le grand Mirabeau, Et dans ce salon de la médecine, il côtoie les plus grands intellectuels de Paris. Et là, comme il est médecin, et que les révolutionnaires ne veulent pas se faire guillotiner, le cercle de l'auteuil est le collimateur de Robespierre, parce que ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont plutôt, on peut dire, plus proches des Girondins que des Montagnards. Et donc c'est lui qui fournit en poison les révolutionnaires qui ne veulent pas se faire guillotiner, parce qu'il vaut mieux se supprimer la veille de son procès qu'après le guillotiner, parce que, bon, c'est jamais grave d'être coupé en deux. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, vos biens sont confisqués. Hein. Vous êtes condamné à mort et vos biens sont confisqués. Donc il vaut mieux si on peut éviter ça. Donc il fournit à tous ses collègues, on peut dire, le poison. Et c'est lui qui a fourni le poison, dit-on, à Condorcet. C'est que Condorcet s'était enfui, puis il était retrouvé. Donc il s'est supprimé deux jours avant son procès, grâce au poison de Cavalis. Voilà. Alors Cavanis lui-même, donc, il est déclaré suspect pendant la terreur. Saint-Jacob, hein, quand même. Hein. Mais il est déclaré suspect, il va se cacher comme les autres. Pendant la terreur, tout le monde se cachait. Vous voyez que les francs-maçons, par exemple, se sont cachés. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde est rentré. Je ne vous l'ai pas dit, alors si on veut parler de franc-maçonnerie, on pense que Brune, Cavanis, était dans la même loge maçonnique à Paris. Alors, ils ont dû se rencontrer là, la loge des neuf sœurs. Donc, il crée en 95, donc à la chute de Robespierre, il crée la société des idéologues, avec des grands copains à lui, qui sont des intellectuels, des idéologues, et sont eux, cette société-là, qui, alors comme ils sont des matérialistes, on dit idéologues, on peut dire psychologues. C'est Cavanis, le premier médecin à avoir pensé que jusqu'à Cavanis, bon, je schématise en extrait, je n'ai pas trop de médecins dans la salle, mais, jusqu'à Cavanis, on pense que le cœur est le siège principal des pensées humaines, quoi. Et lui, il dit, non, pas le cœur, c'est le cerveau. Et il traite les idées, donc, en étant une production du cerveau. Il y a des premiers à avoir anticipé la chose. Donc, il traite ça comme l'estomac, le cerveau. C'est ce que l'a reproché après, les religieux lui ont reproché ça. Cavanis, il écrit un précis, bon, j'ai le titre ici, qui dit, bon, ben, il y a des rentrées dans le cerveau, et le cerveau transforme ces rentrées en sorties, et les sorties sont des idées. Donc, ça n'a rien à voir avec le cœur, c'est purement du matériel, on peut dire. Ça n'a rien à voir avec l'âme, ça n'a rien à voir avec Dieu, etc. Donc ça, c'est son grand apport. Il a fait un grand, qui l'a rendu très célèbre dans toute l'Europe et le monde entier après, dans les années 1800, qui explique ce que je vous dis en quelques mots très malhabiles. Bon, il est membre, à la chute de Robespierre, donc il crée ce qui est des idéologues et des copains. Il est membre de l'Institut de France, et après la mort de Robespierre aussi, on remet en route l'Institut de France, dont l'Académie française, dont l'Académie des sciences, dont l'Académie des belles-aides, des belles-lettres, des beaux-arts, etc. Ça, c'est Cavanis qui remet ça en route, avec ses amis, et avec l'appui du directoire, donc, hein, dans lequel il se retrouve, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, il se retrouve député au Conseil des 500, il est élu le 10 mai 96 exactement. Voilà. Et puis, il participe vraiment grandement à la fin de la Révolution, puisqu'il reçoit trois fois Bonaparte, qui rentre d'Égypte, donc trois fois il le reçoit au salon de Auteuil, pour voir si on peut l'adouber, se mettre avec lui, quoi, pour qu'il prenne le pouvoir, voir s'il est bien d'accord, un, pour prendre le pouvoir, et deux, pour continuer la Révolution française, enfin, les idéaux de la Révolution française. Bonaparte dit, ok, je marche dans l'aventure, et donc ils vont tout faire, les idéologues, pour qu'ils reprennent le pouvoir. Et donc le vieille brumaire. Vieille brumaire, mais ce que c'est la prise de pouvoir par Bonaparte. Il faut un espèce de coup d'État, si vous voulez, bien fait, sans effusion de sang, où on fait venir les députés qui étaient tous à Paris, en disant, attention, vous êtes attaqués, il faut que vous venez siéger à Saint-Cloud. Donc, nous vivons à Saint-Cloud. Le 17 brumaire, le 18 brumaire, le jour de la séance, Saint-Cloud est entouré de troupes fidèles à Bonaparte. Bonaparte arrive et fait un discours en disant, messieurs, la phrase la plus célèbre, parce qu'il se que le ne sait pas, c'est la révolution a atteint ses objectifs, elle est terminée. Voilà. C'était un peu le sens général de ses propos. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut que des députés se mettent à fond avec lui pour dire, oui, c'est bien lui, c'est bien lui, donc Cavalis. Voilà. Et comme Napoléon, il a eu très peur à ce moment-là. Très, très, très peur, parce que le coup d'État ne prenait pas. Il a fallu que Tronchet, député, l'aide beaucoup, dont Cavanis, qui va donc rédiger le discours officiel de Napoléon, qui va être lu et affiché le 19 brumaire dans toutes les rues de Paris et de France, et qui sera disant que la révolution est terminée, que maintenant il faut bosser, quoi, et que en plus, on va faire un consulat. Parmi la suite des éloges, je ne l'ai pas dit, il y avait aussi donc Abbé Sieyès, qui est le premier, on peut dire, alors lui, il a fait encore plus que Tréhier, parce que c'est lui qui a écrit Qu'est-ce que le tiers d'État en 87, je crois, et il va jusqu'à l'Empire. Alors, Cabanis, lui, il est sénateur en décembre 99, après une grande perte dans sa vie, c'est la mort de Mme Hélvétius, qui était sa protectrice, hein, puisqu'il était parti fâché avec ses parents de le Kodak. Hein. Fâché avec ses parents, c'était sa protectrice. Il meurt en 1800. En 1802, il publie son fameux traité sur le rapport du physique et du mental, etc. En 1883, il rentre à l'Académie française. Et puis, alors, il participe avec son groupe après Napoléon à la mise en marche de l'éducation à la France, à l'école primaire, secondaire. Le lycée, l'académie. Ça quitte pas de même, ils vont même jusqu'à prendre des noms grecs, le lycée d'Aristote, l'académie de Platon, etc. Ça, c'est l'influence directe de Cabanis. Donc, il crée l'éducation à la française, l'enseignement à la française. Voilà, et puis il est nommé comte en 1808 par Napoléon. Il décède et il va, comme Tréhier, directement au Panthéon, le 5 mai 1808. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes listes. Alors, le 6e, c'est un que je ne sais pas trouver. Mais si vous avez des questions, donc je ne sais pas, il y a une réponse.
Qu'il était interdit de parler de sujets de moins de 100 ans d'âge. Ce qui leur évitait de parler de la Révolution. Parce que ça aurait mis une pagaille épouvantable dans les membres de la société, 100 ans seulement après la Révolution. Parce qu'il y avait vraiment à cette époque-là les pour et les contre. Et lorsqu'on a recommencé à vouloir célébrer la Révolution en 1989, et faire le fameux bicentenaire, ça a recommencé. Il y a eu exactement les mêmes clivages et les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a hésité à glorifier la Révolution et déclarer que c'était une des périodes les plus extraordinaires que la France ait jamais connues. Et puis, de l'autre côté, ceux qui étaient nettement pas d'accord avec ce type de raisonnement. Et c'est un peu le même problème qu'on a avec vos révolutionnaires. À l'heure actuelle, les universitaires refusent totalement de faire des biographies. C'est plus du tout à la mode. Donc, ils ne vont pas s'amuser à faire une biographie de Tréhier. Sauf un juriste à qui ça pourrait évidemment, à qui il trouverait intéressant, vous voyez, de faire ce genre d'études. À part ça, je ne pense pas. Brune, alors, surtout pas. Brune, allez parler de Brune en Suisse. Et vous verrez ce que les gens vont vous dire sur les ravages de l'armée française quand elle a parcouru la Suisse. Demandez aux Italiens du Nord ce qu'ils pensent de Brune. Ça n'ira pas non plus. Allez à Hambourg, nous sommes censés être européens, allez à Hambourg et vous verrez les gens de Hambourg en train de vous expliquer ce que Brune et ses leaders ont fait en 1800. C'est pour ça que peu d'historiens, si vous voulez officiels, vont s'attaquer à ce genre de personnage. Voilà, alors c'est ça le gros problème, vous voyez, qu'on a à l'heure actuelle avec ce type de personnage, parce que ils offrent un côté blanc, enfin, et un côté noir.
C'est pareil avec Napoléon.
Et c'est toujours difficile de les présenter de manière à peu près apaisée, quoi. Voilà ce que je voulais dire.
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je me suis beaucoup servi des bulletins de votre société qui sont numérisés par le site de la BNF,
oui, ils sont de France, maintenant jusqu'en 1958.
Ouais, très intéressant parce que je trouve beaucoup de choses de...
Oui, mais c'est toujours pareil, les brévistes, évidemment, pour eux, ce sont des dieux. Il faut dire que Brune, sa femme, a eu le bon esprit de léguer une bonne partie de la fortune de son mari à la ville de Brive. Alors, il est évident que la ville de Brive ne peut pas s'amuser à dire du mal de Brune, même quand il s'agissait de gens qui étaient dans un camp tout à fait opposé à celui des révolutionnaires, c'est sûr.
Ceci dit, madame, sans vouloir polémiquer, si vous allez à Lausanne, en Suisse,
ouais.
Vous avez un monument à Brune à Lausanne.
Ah bon,
c'est un monument. Ouais. Le peuple vaudois reconnaissant, je l'ai vu, j'étais très surpris moi-même, le peuple de Brune ouais, reconnaissant de les avoir libérés de la dictature des Bernois.
Mais c'est ça, voilà. Disons que c'est Lausanne contre Berne. Mais c'est pas les gros sous de la Suisse.
Hein. C'est pas la Suisse, c'est pauvre.
C'est pas de ça, c'est sûr.
La Suisse était pauvre.
Alors, Cabani, c'est pas le problème. Ça n'offre aucune difficulté. C'était pas un révolutionnaire. C'était aussi un philosophe. Voilà. Quant à ce pauvre d'Espagnac, il faisait des affaires, mais tout le monde en faisait. La révolution, ça a été une période où la monnaie était une monnaie de papier, les fameux assignats, qui ont permis d'acheter pour pratiquement rien les biens du clergé et les biens des nobles, des minerais, pratiquement rien, donc ça a été une victoire de la bourgeoisie, un coup d'assignat, et l'État n'en a pas vu la couleur. Au départ, cette fameuse histoire, ça avait été de vendre les biens pour que ce soit l'État qui en profite, l'État n'en a absolument pas profité.
Et les citoyens
donc ce pauvre Espagnac, quand il y a des gens qui ont fait des choses bizarres sur le plan financier. Ouais. Bon, donc, qu'est-ce qu'il nous reste alors à
dire?
Treillard.
La Treille.
La Treille. Ah, la Treille.
Pas plus, hein.
La Treille ne risque rien. Il faudrait un scientifique pour étudier
le travail qu'il a fait. Il a créé la discipline en plus, donc c'est un précurseur.
Mais je pense que vous avez raison de dire que ce sont les doctrinaires qui sont à l'origine de tout ça, parce que les doctrinaires, en général, au moment de la Révolution, ont tous prêté serment de fidélité à la Révolution. Les doctrinaires, c'était des gens très à gauche, on va dire, tout simplement. Alors que si Brive avait été comme Tulle, une ville avec des jésuites, encore que les jésuites étaient déjà étaient expulsés dès 1754, si ça avait été des jésuites, ça aurait peut-être été plus compliqué.
Tout à fait.
Eux, ils étaient quand même plus modérés.
Oui, parce qu'ils avaient même repris, à l'expulsion des jésuites, ils avaient même repris les établissements à la suite des jésuites.
Oui.
Le roi leur a donné de reprendre.
Oui, et après la Révolution, ces doctrinaires ont complètement disparu.
Oui.
Après, il y a eu un autre ordre de Jésus qui s'appelle les pères de la doctrine chrétienne, mais c'est autre chose, hein. C'est pas le même type d'enseignement. Voilà.
Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, je vais vous le dire, une petite page de publicité, donc si vous voulez aller plus loin et voir tous les détails de ce que j'ai dit, j'ai mon bouquin qui est en vente à la mémoire d'Archimède.
Il faut encourager la mémoire
d'Archimède.
Et bien, nous vous remercions beaucoup.
Je vous remercie.
Et je vous remercie. Alors, voilà, la prochaine parler de la